Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Europa Voice numéro 137, et je suis comme à l'accoutumée avec notre bon ami Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors Nathanaël, aujourd'hui on a deux sujets très importants pour l'Europe. D'abord on va parler de l'Ukraine dans la première partie de cette Europa Voice, et nous parlerons également du quid de la gauche en Europe à presque l'avant-veille, je ne vais pas dire la veille, mais l'avant-veille de ces élections européennes. Partie 1 donc, première partie d'Europa Voice, l'Ukraine. Des questions se posent sur le coût potentiel de l'intégration. On a beaucoup parlé de cette intégration possible, rapide, fast track, on peut utiliser tous les superlatifs qu'on veut, possible donc de cette Ukraine en guerre avec la Russie. Mais quand on commence à parler de chiffres, ça peut en fâcher plus d'un en fait.
En fait, il y a un peu un principe de réalité auquel sont confrontés les dirigeants de l'Union européenne, c'est qu'ils parlent beaucoup d'élargissement de cette Union européenne. On a parlé dans un épisode précédent des Balkans occidentaux, de la Bosnie-Herzégovine. Évidemment, il y a le cas ukrainien avec ce processus, cette procédure de fast track qu'on a aussi beaucoup commenté dans Europa Voice. Mais le principe de réalité, c'est qu'en fait, intégrer des nouveaux pays, Christophe, ça coûte de l'argent, et qu'on commence à voir pointer une estimation de par plusieurs instituts d'études européens. Les derniers en date, c'est l'Institut Bruegel. Et en l'état actuel des choses, les experts évaluent entre 11 et 19 milliards d'euros par an le coût net pour le budget européen d'une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne.
Alors ça considère quoi ? Ça considère le fait que les aides qui vont devoir être apportées à l'Ukraine pour intégrer, le coût en lui-même justement de cette intégration, le coût administratif. Est-ce qu'on considère aussi dedans le coût que ça peut avoir par exemple sur certains pans de l'agriculture ailleurs, le fait que ça va attaquer d'autres économies ? Est-ce qu'on voit le côté bonus et également le côté malus quand on fait un budget comme ça ?
Alors quand un pays, Christophe, est membre de l'Union européenne, il y a des entrants et des sortants. C'est-à-dire que le pays reçoit des aides de l'Union européenne dans plein de domaines différents. Vous avez mentionné l'agriculture, on y reviendra. Mais il y a aussi le côté contribution à l'Union européenne, puisqu'on sait que chaque pays, de manière différenciée, contribue aussi à l'enveloppe commune, au budget global de l'Union européenne. Évidemment, quand c'est l'intégration de nouveaux pays, c'est souvent des nouveaux pays dont le développement économique est inférieur aux pays déjà membres de l'Union européenne. Et donc forcément, le côté aide, subvention pour ces pays, en proportion, est plus important que la contribution de ces mêmes pays. Mais c'est un pari sur l'avenir, Christophe, parce que si on reprend l'exemple polonais, comme on l'a évoqué la dernière fois, on sait très bien qu'aujourd'hui, la Pologne flirte avec les niveaux de développement des pays les plus occidentaux et développés de l'OCDE, parce que justement, en 20 ans, ils ont su rattraper un niveau parce que membres de l'Union européenne. Donc c'est
une vraie success story d'un point de vue économique, en tout cas. Après, on peut parler d'un point de vue politique, etc. Mais d'un point de vue intégration européenne, la Pologne, c'est la success story, comme peut-être en 86 l'avait été la success story espagnole et portugaise. Quand on sort les success stories, c'est dur à dire ça, quand on sort les success stories européennes, la Pologne, c'est une des dernières en date.
Alors, j'ai eu un peu peur que vous me parliez de la success story grecque.
Oui, non,
parce qu'on n'en est pas là, mais on est à peu près dans la même période de temps dans les années 70-80. Mais effectivement, Christophe, la Pologne, au même titre que l'Espagne, le Portugal, mais même l'Italie, à un moment d'une certaine façon, a accédé à ce niveau de développement parce que membre de l'Union européenne. Et puis, c'est aussi important de le souligner pour les auditeurs d'Europa Voice et d'SBS. À l'échelle de l'humanité, ce sont des transitions qui ont pris 20 ans, 30 ans. C'est rien du tout.
Pour le coup, c'est une vraie goutte d'eau dans l'unité de temps.
Entre l'effondrement du bloc soviétique dans les années 90 et les années 2020, il s'est passé 30 ans. C'est rien. C'est en une génération, les Polonais ont pu voir le développement et l'amélioration de leur niveau de vie. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour l'Ukraine, évidemment, c'est un pari sur l'avenir. Parce qu'on sait très bien, et on va sûrement y revenir, mais que il y a une part des subventions européennes pour l'agriculture, mais aussi pour le fonds de cohésion, qui iront à l'Ukraine. Et qu'en attendant, évidemment, L'Ukraine est encore un pays considéré comme pauvre et donc sa participation au budget européen sera bien moindre que ne l'est la participation d'autres pays européens.
Mais est-ce que ça dénote pas un certain fait quand même qu'en Europe, il y a eu une expansion du nombre de l'Europe, hein, il n'y a pas si longtemps de ça, on parlait, hein, 86, on était passé à l'Europe des 12. Là, aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux et il y a beaucoup plus de pays qui veulent y rentrer. On pourrait croire que les Européens, entre guillemets, et une certaine expérience d'intégrer des nouveaux pays. Là, l'Ukraine, ça change un peu la donne parce qu'il y a aussi ce côté guerre qui aussi impose peut-être des questions autres qu'on pourrait se poser, par exemple, avec la Macédoine du Nord. Est-ce qu'au final, la facture est plus importante en Ukraine qu'elle pourrait l'être, justement, si je prends l'exemple de la Macédoine du Nord?
Encore une fois, c'est un pari sur l'avenir. Si on prend la question des subventions agricoles, si on prend la question de la politique agricole commune, et si on fait aussi l'hypothèse, ça c'est les confrères des Échos qui l'ont fait, que l'Ukraine récupérerait l'ensemble de son territoire et donc ne serait pas amputée d'une partie de son territoire. Ça représenterait, Christophe, aujourd'hui, l'Ukraine, un cinquième des terres agricoles de l'Union européenne.
C'est pour ça que l'agriculture est au cœur de cette question du débat et qui aussi focalise pas mal de gens en politique franco-française. Et donc ça va être la même chose en politique belge, en politique néerlandaise. Quand on a une question agricole, l'agriculture c'est quand même un des pans de la société européenne important. Et là, aujourd'hui, ça cristallise un peu ce débat aussi.
Bah oui, mais ce que ça veut dire, c'est que évidemment beaucoup de subventions de cette politique agricole commune iraient vers l'Ukraine, de par la superficie de surface agricole en Ukraine. Mais ça veut dire aussi que l'Ukraine serait le grenier, continuerait à être et encore plus le grenier de l'Europe, et donc favoriserait aussi l'indépendance agroalimentaire.
Tout en sachant que l'Ukraine a très longtemps été le grenier de l'URSS. C'était vraiment les champs de blé ukrainiens, c'était le grenier vraiment, là on peut pas utiliser un autre mot, c'est ça, le grenier de l'URSS qui serait transpondé dans un grenier européen.
Exactement, et c'est aussi en ça que c'est un pari sur l'avenir. Effectivement, on sait que pendant des années et pendant des décennies, l'Ukraine profiterait de ses subventions, de cette politique agricole commune, mais on le voit de plus en plus d'un point de vue sécuritaire, de défense, d'indépendance énergétique. Là, c'est la question de l'indépendance alimentaire. Et est-ce qu'une Ukraine, au sein de l'Union européenne, si importante en termes de production agricole, serait pas aussi une solution pour l'Union européenne d'accéder ou d'approfondir cette indépendance alimentaire à une heure où, encore une fois, l'Union européenne se cherche des réponses pour garantir son indépendance et sa sécurité dans plein de différents domaines. Donc c'est en ça aussi que l'Ukraine est un peu un cas d'école pour l'Union européenne, d'un moment où on se demande si ça vaut encore le coup d'élargir encore un peu plus l'Union européenne, parce que ça c'est aussi important pour nos auditeurs. Christophe, on est passé presque en autant de temps à une Europe des 8 à peu près, 8-9, qu'à une Europe des 27 aujourd'hui.
Oui, l'accélération a été presque exponentielle.
L'accélération est exactement exponentielle. Donc, est-ce qu'on a été aussi... On a aussi approfondi nos politiques de manière exponentielle pendant le même laps de temps? La réponse, c'est non. Donc, c'est toujours cette même question. C'est oui, l'élargissement, ce sont des opportunités pour l'Union européenne, mais est-ce qu'on arrive encore à développer une politique commune, à s'entendre? Et il y a des signes d'espoir. L'Intelligence Artificial Act, qui est la première législation contraignante sur l'intelligence artificielle votée par le Parlement européen, montre que l'Europe est encore une force politique dans plein de domaines où d'autres parlements nationaux dans le monde ne sont pas capables de légiférer.
Oui, absolument. On ne parle pas trop de la guerre justement là-dessus. C'est que dans cette intégration de l'Ukraine, c'est presque ambivalent, mais la question de la guerre, a priori, sur les questions budgétaires, on admet que la guerre va se terminer à un moment ou un autre, et on admet que, en gros, l'Ukraine va gagner d'ailleurs, parce que si on fait abstraction du territoire, on se dit, l'Ukraine va rester dans ses zones courantes actuelles et ne sera pas dévaluée ou déformée dans ses frontières.
Alors c'est un petit peu le lobby que sont en train de faire les présidents et les présidentes des pays baltes et de certains pays limitrophes de l'Ukraine et de la Russie, c'est de dire qu'il n'y a pas le choix de toute façon. Il faut que l'Ukraine gagne cette guerre et c'est parce qu'on montre des signaux de faiblesse à Vladimir Poutine qu'on est dans la situation dans laquelle on est. Donc ça aussi, il y a une espèce quand même de discours dans l'air qui fait que les pays de l'Union européenne sont quand même encore assez optimiste par rapport à la finalité de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et puis le deuxième aspect, qui est peut-être un peu plus de la politique politicienne, c'est que l'Union européenne soit ne veut pas tellement se mouiller ou a aussi compris que la question de la défense de l'Ukraine se joue à un niveau qui est peut-être un petit peu supérieur à celui de l'Union européenne et se joue au niveau de l'OTAN. Parce qu'il faut aussi inclure d'autres pays dans l'équation, notamment les États-Unis. Et donc, effectivement, Christophe, vous avez entièrement raison. La question, il y a évidemment un support militaire, humain, sanitaire de l'Union européenne pour l'Ukraine. Mais la question de financement de long terme, d'armées, de ressources humaines, elle est d'une certaine façon un peu transférée de l'Union européenne à l'OTAN, ce qui n'est d'ailleurs pas plus mal pour l'Union européenne qui peut, elle, se focaliser, encore une fois, sur l'après-guerre et ces questions d'intégration de l'Ukraine et d'autres pays d'ailleurs dont on parle en ce moment.
Et ce n'est pas si mal non plus quand on y réfléchit de dire que peut-être Vladimir Poutine serait en guerre contre l'OTAN plutôt qu'en guerre contre l'Europe. Quand on réfléchit à ça, si on intègre l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est un peu, entre guillemets, déplacer le problème, en tout cas en termes des responsabilités. L'OTAN qui fête ses 75 ans d'ailleurs.
L'OTAN qui fête ses 75 ans et que certains pays, encore une fois, rappelons-le, c'était le cas de la Suède il y a pas longtemps, certains pays qui sont restés neutres pendant des dizaines et des dizaines d'années viennent de rejoindre l'Alliance Atlantique. Donc ça montre aussi que l'échelon aussi, d'une certaine façon, cohérent aujourd'hui pour faire face à cette situation de pré-guerre européenne, ce sont les mots, je crois, du leader polonais, c'est plutôt l'OTAN d'ailleurs que l'Union européenne. Rappelons-le aussi pour nos auditeurs d'Europa Voice, il n'y a pas d'armée européenne, Christophe.
Oui. Faut à qui d'ailleurs ?
non, mais donc voilà, donc c'est aussi un principe de réalité, c'est-à-dire que l'Union européenne.
Il n'y a pas encore d'armée européenne. C'est sûrement sur les plans en ce moment.
C'est remis au calendrier grec de manière assez régulière, mais c'est-à-dire que le niveau aussi cohérent d'un point de vue militaire, il est davantage au niveau de l'Alliance Atlantique qu'il ne l'est au niveau de l'Union européenne.
Absolument. C'était Europa Voice, première partie. On fait une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie d'Europa Voice. Et on parlera de la gauche européenne. Tout un programme.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités. Participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/French.
Deuxième partie d'Europa Voice, comme promis, je suis toujours avec Nathanaël Bloch. Ça va toujours ?
Ça va toujours, Christophe.
Alors là, cette fois-ci, on va parler de politique vraiment politicienne. On sait que les élections européennes arrivent, c'est tout début du mois de juin. On ne fera qu'en parler d'ailleurs d'ici à là, je pense, dans les prochains épisodes d'Europa Voice. Faisons un coup de projecteur aujourd'hui sur la gauche. Et oui, la gauche existe toujours au niveau européen, et je fais pas de partisanisme là-dessus, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du fait que la gauche s'est fait décimer, d'ailleurs comme une grosse partie de la droite, dans plein de différents pays, et pas simplement la France, je suis pas que franco-français là-dessus. Par contre, la gauche a quand même son mot à dire dans cette élection européenne. D'ailleurs, il faudra peut-être définir qu'est-ce qu'est la gauche en elle-même, une gauche européenne.
Alors là, effectivement, Christophe, on fait une petite focale sur les socialistes européens.
D'accord.
Parce que historiquement, évidemment, en face du Parti populaire européen, on avait un parti socialiste européen assez fort, un peu à l'image de ce qu'on avait au niveau de chaque pays européen, une droite conservatrice classique face à une gauche plus ou moins réformatrice.
Qui était porté d'ailleurs en Espagne par les Podemos et toute cette la France insoumise en France, enfin cette gauche un peu plus
radicale.
Voilà, radicale. Je cherchais mon mot. Je voulais pas dire extrémiste, c'était radical le mot. Merci.
Non, mais donc la question de se poser, c'est est-ce que les gauches et les droites, là pour le coup un peu plus classiques dans les pays européens, vont réussir à, puisque les élections européennes se font, on vote quand même au niveau national. Donc la question, c'est de savoir est-ce que la gauche va réussir à se reconstruire assez au niveau national pour envoyer des députés au Parlement européen. C'est une question aussi qui se pose parce qu'on est dans un contexte au niveau européen, Christophe, où la droite, elle, pour l'instant, est toujours aux manettes avec Ursula von der Leyen, le Parti populaire européen, D'ailleurs, souvent des alliances avec des mouvements plus, j'allais dire, centristes comme Renew Europe.
Alors, on parle de droite, entre guillemets, traditionnelle.
On parle de la droite traditionnelle. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que la gauche va réussir à bousculer et faire que Ursula von der Leyen n'obtiendra pas un second mandat. Le Parti Socialiste Européen, Christophe, a décidé de se ranger derrière une personne assez inconnue du grand public, qui est Nicolas Schmitt. Donc c'est lui qui a été désigné par le Parti Socialiste Européen pour être tête de liste aux prochaines élections en juin prochain, si jamais, effectivement, les députés européens socialistes ont une majorité. C'est aussi lui qui est pressenti pour prendre la tête de la Commission. Ce qui est très intéressant, Christophe, c'est que le contexte est un peu spécial. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans une opposition droite-gauche classique au niveau européen. On ne va même pas être dans une opposition, j'allais dire, comme Emmanuel Macron l'a créé, a créé ses conditions d'avoir une espèce d'alternative démocratique en France. Maintenant, il y a deux quinquennats de cela. On va être dans un contexte où l'extrême droite, on le sait, et les instituts de sondage l'ont tous calculé, il y a une vraie poussée de l'extrême droite au niveau de l'Union européenne. Et donc, la gauche doit à la fois se battre contre la legacy d'Ursula von der Leyen, mais aussi contre cette poussée de l'extrême droite, avec en périphérie des mouvements de gauche plus radicales.
J'allais dire, en périphérie, des mouvements de gauche beaucoup plus radicaux, justement.
Voilà, des mouvements de gauche qui sont portés, par exemple, en France, par la France insoumise, qui ne fait pas d'alliance avec le parti de Raphaël Glucksmann, par exemple.
Ouais, c'est compliqué, en fait, le rôle de cette gauche, justement, quand on met un coup de projecteur dessus, parce que si on fait juste une simplification des choses, la gauche est attaquée de toutes parts. Par sa gauche, par sa droite, par le centre. C'est une position qui est difficile au niveau européen, parce que mais c'est un peu le même récital dans chaque pays, quand même.
Oui, en fait, dans chaque pays, Christophe, il y a des pays où les intentions de vote pour les listes de gauche augmentent. C'est par exemple le cas en France. On pense que les intentions de vote vont augmenter de près de 10% pour les socialistes au niveau européen. Mais il y a plein de pays, d'ailleurs des pays assez, j'allais dire, historiques, qui fournissent un grand nombre d'eurodéputés socialistes, où il y a un enjeu vraiment, où il y a un risque de voir ce nombre de députés socialistes européens envoyés au Parlement européen diminuer.
On parle de l'Espagne, on parle du Portugal.
On parle de tous ces pays qui historiquement ont envoyé des contingents de députés socialistes au niveau du Parti Socialiste Européen. On parle de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, des Pays-Bas, on parle même aussi de l'Allemagne. Dans tous ces pays-là, il y a un véritable enjeu et un challenge pour la gauche de se reconstruire et de continuer à être une force d'opposition au sein du Parlement européen. Et ça, c'est très important, parce que si les partis de gauche se sont un peu effondrés dans de nombreux pays européens, au niveau du Parlement, au niveau de l'Union européenne, pour l'instant, la gauche, qu'on peut appeler traditionnelle, a résisté.
C'est un peu la ligne rouge, si je peux me permettre.
Je ne sais pas si c'est le dernier espoir, mais c'est un petit peu
la ligne de vie.
C'est la ligne de vie exactement pour cette gauche européenne qui doit continuer d'exister, parce que si elle n'existe ni au niveau national, ni au niveau européen, la nature ayant horreur du vide, ce sont d'autres mouvements. Donc on sait déjà que l'extrême droite, elle, va progresser. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que les mouvements contestataires de gauche, en France par exemple, la France insoumise, vont continuer à grignoter cet électorat de gauche au Parlement européen. Et de manière un peu plus contradictoire, Christophe, et différente, c'est que la droite se porte mieux. La droite se porte mieux aussi parce qu'elle a fait plus d'alliances avec des partis centristes au niveau européen. Donc c'est un enjeu qui est spécifique à cette gauche en vue des élections européennes.
Oui, la gauche a toujours eu du mal avec son centre. Hein. On pense en France le PRG, qui était des partis centristes de gauche qui ont vraiment eu du mal à survivre, justement parce que les alliances étaient difficiles à trouver. Juste pour conclure cette idée de gauche en Europe, est-ce que quand même, quand on y réfléchit, l'Europe c'est une idée de gauche ? C'est une idée humaniste, c'est une idée qui est sur le papier vraiment de gauche. Est-ce que ça fait peur de penser que maintenant l'Europe pourrait être une idée de droite ? On parle donc de cette globalisation, on parle de tout ça. Est-ce que l'idée même de penser que l'Europe vraiment est dans une phase qui tourne de plus en plus à droite avec une perte de vitesse, peut-être potentiellement de la gauche européenne, pour l'avenir, c'est un changement d'état d'esprit de ce que est et ce qu'était l'Europe à l'époque.
Ce qui est intéressant, c'est que la gauche et la droite au niveau national, et notamment français, ont reproché à l'Europe, à l'Union européenne, tout et son contraire. Ça a été une espèce d'épouvantail à peur. C'est-à-dire qu'à la gauche...
Le bouc émissaire.
Ça a été un bouc émissaire. À gauche, on lui reprochait un ultra-libéralisme, alors qu'à droite, on lui reprochait de contrôler en fait tout ce qui allait se passer en France et d'être beaucoup trop une espèce de machine à brimer les libertés. On reprochait aussi à droite, à l'Union européenne, d'être d'une espèce de à une immigration illimitée, alors qu'à gauche, on lui reprochait de ne pas faire assez. Donc en fait, les deux parties ont reproché à l'Europe tout et son contraire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence quand même à voir depuis quelques années des positions beaucoup plus réalistes sur l'Union européenne. Et de tous les partis, Christophe, on peut prendre les extrêmes. Il y a 10 ans, Marine Le Pen, il fallait sortir de l'Union européenne, il fallait arrêter l'euro. Enfin, vraiment, voilà, on était dans démagogie puissance 10.
Enfin, le Brexit a quand même été un sacré coup de clim pour tout le monde. Hein. Soyons francs.
Oui, ça a été un coup de clim, mais c'est un...
Pour toutes les idées de sortir de l'Union européenne,
je pense que
la complication du projet a compliqué pas mal la rhétorique.
Ah bah, ça a été ce qui s'est passé au Royaume-Uni, ça a été la douche froide pour Marine Le Pen et d'autres Frexiteurs, de se dire c'est peut-être pas si mal en fait de continuer d'appartenir à l'Union européenne. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que même au niveau des extrêmes, on a évolué sur cette question de l'Union européenne de manière réaliste. Pour la gauche, la question qui est portée en ce moment d'ailleurs par Raphaël Glucksmann, c'est pas la question évidemment d'appartenir ou pas à l'Union européenne, c'est la question de l'approfondissement. Il le dit dans ses meetings, c'est ce qui l'oppose d'ailleurs plutôt à la gauche de France Insoumise, à cette espèce de bataille par médias interposés qu'il a avec François Ruffin, c'est que pour François Ruffin, l'Union européenne est en train de rater un idéal de politique qu'il essaie de mettre en place. Pour Raphaël Glucksmann, la question c'est, on a un cadre qui est bon, mais il faut l'approfondir. Donc, je ne sais pas si c'est moins une question de gauche-droite qu'une question de trouver le bon angle et d'être face aux réalités que l'Union européenne peut apporter par rapport au parti dans lequel on se trouve. Et encore une fois, c'est vrai pour l'extrême droite avec cette évolution de la position de Marine Le Pen sur la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne. C'est vrai pour la gauche classique. C'est vrai aussi pour la droite, d'une certaine façon. Le discours qui est porté en ce moment en France, en l'occurrence par François-Xavier Bellamy, est plutôt un discours sensé, qui est différent des discours des autres partis politiques, mais on n'en est pas à une sortie de l'Union européenne ou je ne sais quel est l'autre élément démagogique. Donc la question, elle est moins gauche-droite qu'une question de qu'est-ce qu'on fait de cette Europe-là.
Un vrai défi intellectuel pour la gauche.
Pour la gauche, c'est un défi intellectuel, mais c'est aussi, encore une fois, c'est cette ligne de vie. C'est encore le dernier espace, c'est un des derniers espaces de démocratie où la gauche peut s'exprimer et avoir un poids. C'est ça aussi qui est important. La gauche n'a plus de poids dans beaucoup de démocraties parlementaires en Union européenne, dans les pays de l'Union européenne. Elle a encore un poids au niveau de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle va en faire, cette gauche-là ?
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Antonel.
Merci, Christophe.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.